Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
De nouveau, je suis face à Claude Jopard. J'aimerais qu'on monte un peu à la surface et qu'on parle un peu de la croûte, des continents, des océans. Tout ça, ça flotte, ça bouge. On parle de tectonique des plaques. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que c'est des choses qui flottent ? Les continents flottent ?
Oui, les continents flottent. Eh bien, par exemple, si j'épaissis un continent, et en principe, puisque c'est fait de matière, il devrait s'enfoncer, mais il ne s'enfonce pas autant que ce que l'on pense, tout simplement parce que c'est comme un bateau. Si je fais un continent qui est épais, en fait, je vais former une quille qui est plus importante, mais je vais lui permettre aussi d'émerger sur une plus grande épaisseur au-dessus de la surface. Donc c'est pour ça qu'on dit que les continents flottent. Ça ne veut pas dire pour ça que l'intérieur de la Terre est liquide, mais ça veut dire que l'intérieur de la liquide se déforme rapidement à l'échelle des temps géologiques. À l'échelle du million d'années, la Terre intérieure se comporte comme un liquide.
Le manteau est solide, mais il est solide à une certaine échelle de temps. Si on attend quelques centaines de milliers d'années ?
On peut dire que la Terre, elle se comporte comme un liquide à l'échelle du million d'années. Comment est-ce qu'on le sait ? Il y a deux manières de le faire. Faire des expériences en laboratoire. Donc on prend une roche et puis on va la déformer et on va mesurer une relation entre la contrainte qu'on impose, la force qu'on impose à l'échantillon et la vitesse à laquelle il se déforme. Ça permet de déterminer ce qu'on appelle la viscosité ou de manière plus simplement sa loi de déformation. Le problème c'est que je ne peux pas faire en laboratoire les vitesses de déformation de la Terre. Elles sont beaucoup trop lentes. Donc ça voudrait dire que si je voulais faire une manip à l'échelle de la Terre, je devrais faire des manips qui durent des dizaines d'années. Il est hors de question d'être capable de déformer un bout de roche pendant des dizaines d'années de manière contrôlée.
Il y a cette expérience célèbre où on met de la poix dans une espèce d'entonnoir. Et cette poix, on a l'impression qu'elle est vraiment solide. Et tous les 30 ans ou tous les 40 ans, il y a une goutte qui tombe.
Tous les matériaux en fait, se déforment. Il n'y a pas de matériaux qui ne se déforment pas. C'est impossible. Donc la seule question, c'est à quelle vitesse ils se déforment et comment ils se déforment. Donc on peut rentrer dans le détail des mécanismes de déformation. Mais pour la Terre, la question elle est suivante. C'est à quelle vitesse ça se déforme, compte tenu du fait que, d'abord, elle est à haute température en profondeur et à la surface, elle est froide. Donc déterminer en laboratoire, c'est compliqué. Parce que les roches à l'intérieur de la Terre, c'est à 1200 degrés, grosso modo. Donc faire de 1200 degrés en laboratoire, maintenir ça pendant très longtemps, ça coûte très cher. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait des manips à plus basse température. Enfin, maintenant, on les fait à ces températures-là, mais dans le temps, il y a quelques dizaines d'années, c'était plus dur. Donc on les fait à plus basse température, avec des vitesses de déformation qui sont plus faibles, et on extrapole, un peu comme Buffon. Donc ça, c'est assez casse-gueule. Alors l'autre solution, c'est de regarder si la planète ne nous offre pas des mesures de déformation directes. Et c'est là qu'on utilise ce qu'on appelle le rebond post-glaciaire. Le climat fait que la Terre a connu des épisodes de glaciation énormes, dans lesquels on a des calottes glaciaires qui se sont formées, qui faisaient plus de 3 km d'épaisseur. Donc par exemple le Canada, et puis jusque toute la Scandinavie, et la calotte glaciaire elle est à peu près jusqu'au nord de la France, se retrouve chargée par 3 km de glace. 3 km de glace, ça fait un poids énorme quand même. Donc la Terre, elle se déforme. Et puis le climat change brutalement. Le manteau s'enfonce. Il se retrouve avec une charge qu'il n'avait pas avant. Et puis le climat change rapidement à l'échelle qui nous intéresse. Donc en quelques dizaines de milliers d'années, la calotte glaciaire, elle disparaît. Donc le manteau, lui, il met un peu de temps à réagir. Et donc je vais mesurer la vitesse à laquelle il se retrouve sa forme initiale. C'est fait tout simplement en mesurant le niveau de la mer dans les zones où je peux avoir des plages que je reconstitue. Donc je retrouve des paléo-niveaux de plages et je vois que tout ça s'est remonté. Et ça remonte encore à l'heure actuelle. Il faut savoir que le rebond post-glaciaire, il est encore mesurable en Suède, par exemple. Et donc je vais être capable de voir la vitesse à laquelle la Terre a répondu à cette contrainte qui lui était imposée. Et donc ça se fait sur quelques dizaines de milliers d'années, ce qui est pas mal. C'est-à-dire, c'est pas le million d'années, mais ça se rapproche comme des millions d'années. Et comme ça, je vois que la Terre se déforme comme un liquide à cette échelle-là. C'est intéressant parce que la déformation, en fait, à cette échelle-là, la calotte glaciaire, ça se développe sur un continent entier, c'est-à-dire sur 10 000 km, par exemple. Donc, quand ça se déforme sur toute l'épaisseur du manteau terrestre. Hein. Donc, c'est tout le manteau qui se déforme. La croûte, elle est là. La croûte, elle est froide. Elle, ça ne peut pas être un liquide, même à l'échelle des temps géologiques, c'est très difficile à déformer, et surtout pas à cette échelle de temps-là, mais elle fait une pellicule de surface, donc elle répond de manière assez passive, c'est le manteau qui impose tout.
Donc le manteau est un liquide si on regarde la bonne constante voilà. De temps. Elle est solide, tu me l'as expliqué, mais à grande échelle de temps, c'est un liquide, comme un océan on peut dire, et sur ce liquide flottent bah, des radeaux qui sont pour le coup solides. Au début, donc il y a 4,5 milliards d'années, il n'y avait rien qui ressemblait à une croûte.
Alors en principe, à l'heure actuelle, c'est intéressant à partir de quand les continents émergent. Alors on va voir que la question elle est plus compliquée parce qu'en fait, il y a des processus dans les continents, on les crée mais on les détruit aussi. Donc la question est de savoir à partir de quand je commence à préserver des continents. Donc les échantillons les plus anciens qu'on connaisse à l'heure actuelle, ils ont 4 milliards d'œufs à peu près.
Ah, donc assez rapidement dans la Terre quoi.
Alors mieux que ça parce qu'en fait, d'abord, plus on remonte dans le temps et plus les échantillons sont rares et difficiles à trouver, on verra pourquoi. Donc en fait, la recherche, elle continue encore. Il y a 30 ans, les roches les plus anciennes, elles étaient 3,8 milliards. Maintenant, on est à 4 milliards 2. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On va peut-être être 4 milliards 25. D'ailleurs, il y a un débat. Il y a certains chercheurs qui prétendent avoir trouvé des roches un peu plus vieilles que ça. Donc ça, c'est une roche. Par contre, on a des petits minéraux. Donc dans les roches continentales, il y a des minéraux qu'on appelle les zircons, qui sont extrêmement résistants. Et donc ces cristaux-là, ils sont faits dans des roches continentales. C'est pas possible de les faire autrement. Et donc ces zircons, on peut en dater. Et il y a des zircons qui datent d'à peu près 4 milliards, presque 5. Donc en fait, il y a eu des roches de type continental très rapidement sur Terre.
Donc depuis très longtemps, on a des radeaux qui flottent et qui sont en quelque sorte fabriqués quand même à l'intérieur du manteau.
Alors, ils sont fabriqués près de la surface, mais ils viennent de l'intérieur du manteau. C'est de la matière qui initialement était dans le manteau. Ben, je fais une éruption volcanique, donc je fais du liquide. Ce liquide, je le fais remonter à la surface. Donc c'était du liquide qui, à un moment donné, était dans le manteau. Mais c'est en remontant vers la surface qu'il va finir par créer les roches continentales.
Est-ce qu'on a une idée de savoir si depuis toujours la proportion des terres émergées, peut-on dire, est de même ordre qu'aujourd'hui, c'est-à-dire quoi, c'est un tiers ou un...
Alors ça dépend comment on compte, mais si on tient compte, grosso modo c'est 40%, hein, plus de 40% continent, 60% océan. En fait, on peut déterminer ça par des bilans de masse, parce que si je sors de la matière continentale du manteau, je fais changer la composition du manteau. Donc quand j'échantillonne le manteau par des laves, eh bien, il faut faire attention à ce que j'échantillonne. Eh bien, je vais voir que petit à petit, au cours des âges, en fait, il a perdu de la matière. Et cette matière, c'est bien la matière continentale. Donc, en faisant des bilans de masse entre ce que j'ai plus dans le manteau et qui était là au départ, je vais pouvoir déterminer combien de continents j'ai fabriqués. Alors, c'est compliqué parce que je fabrique des continents. À l'heure actuelle, si je vais en Guadeloupe, en Martinique, je suis en train de fabriquer de la matière continentale. La Martinique, c'est à part quelques roches sédimentaires qu'il y a à côté, c'est du nouveau continent que je suis en train de fabriquer, que je vais finir par coller quelque part et qui va devenir une nouvelle région continentale. Voilà, ça c'est une création. À l'inverse, quand je regarde par exemple la collision entre l'Inde et l'Asie, les continents qui rentrent en collision, ils s'épaississent, et puis ben, ça fait une chaîne de montagnes. Un relief comme l'Himalaya, c'est érodé parce que c'est pas stable compte tenu du climat. Et donc je vais finir par enlever toute cette matière. Cette matière, je vais l'évacuer dans les océans, et puis je vais les rajouter à l'intérieur de la Terre. Donc je détruis du continent quand je fais une collision continentale. Donc ce qui se produit, c'est qu'il y a une compétition entre création et destruction. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Alors quand j'étudie les roches du manteau, j'ai un bilan de masse global, donc je vois combien j'ai extrait de continents au cours des âges. Et ce qu'on voit, alors c'est... Les mesures, évidemment, sont sujettes à caution parce qu'il faut prendre les belles laves les moins altérées, etc. Parce que quand je fais des laves qui ont 4 milliards d'années, elles n'ont plus tout à fait la bonne composition. Donc voilà, il y a des problèmes intrinsèques à ça. Mais je trouve que la matière continentale est apparue très rapidement. Grosso modo, depuis environ plus de 2 milliards d'années, j'ai une masse continentale qui est à peu près constante. Je détruis autant que je fabrique.
Ce Ça, c'est pour la masse. Et si on se pose la question, depuis quand, disons, les continents ressemblent à ceux qu'on a aujourd'hui?
Alors, on ne sait pas ça. On sait que les continents, s'assemblent, ils forment des supercontinents. Ces supercontinents ne sont pas stables, ils se fragmentent. Et donc, il y a un balai sans arrêt, c'est un peu comme des auto-tamponneuses. Hein. Je fais des grosses collisions. Ça arrive parfois quand on va à la fête foraine, toutes les bagnoles se font des collisions, finissent par faire un gros paquet. Et puis ça, c'est pas stable, donc on s'écarte et on se refait, etc. C'est un puzzle qui est sans arrêt reconstitué, dans lequel les pièces, en plus, sont déformées d'un espace à l'autre. Donc, retrouver comment elles s'emboîtent, ça devient très difficile quand on remonte dans le temps. À l'heure actuelle, je sais que quand j'ai ouvert l'Atlantique, je peux refermer. Les deux pièces du puzzle sont parfaitement exactes, donc je referme sans problème.
Et ça met combien de temps ?
De casser un continent ? Ah ben, la dernière gros continent qui s'est cassé, c'était la Pangée, il y a plus de 200 millions d'années.
200 millions d'années. Donc ça veut dire, si j'étais revenu sur Terre il y a 100 000 ans ?
Ah, il y a 100 000 ans, il n'y a pas beaucoup de différence. Oui. Par contre, si tu remontais il y a plus de 100 millions d'années, l'Espagne ne serait pas collée à la France, l'Inde ne serait pas collée à l'Asie. Donc tu aurais une géographie terrestre qui serait complètement différente. Il n'y aurait pas les Alpes, donc tu ne t'y retrouverais pas en fait.
Quels sont les grands problèmes qui ne sont pas encore résolus sur ce genre de questions ?
L'un des problèmes, c'est l'émergence des continents. Parce que quand on fait des continents, au début, ils ne sont pas très épais. Donc en fait, ils ne sont pas suffisamment épais pour sortir des océans. C'est important pour la vie. Parce qu'on fait la vie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle par la photosynthèse. Et la photosynthèse, il faut être au contact des rayons cosmiques. Donc ça se fait dans les continents qui sont émergés.
Mais la vie commence dans les océans.
Alors la vie commence dans les océans. Elle peut se développer par photosynthèse près de la surface avec des algues. Mais la vie telle qu'on la connaît, c'est essentiellement fait sur les continents. C'est là que ça s'est développé le plus.
Et l'eau, elle vient d'où ?
C'est un gros débat. On pense que l'eau, elle est venue très tard. En fait, l'eau, c'est ce qui va fabriquer aussi les planètes comme Jupiter et compagnie. C'est à l'extérieur, ça ne vient pas tout de suite. Donc on fabrique d'abord les planètes silicatées, près du Soleil. Et donc ça, c'est la Terre, Mercure, tout ça. Et puis, on pense que l'eau est venue plus tard. Quand on regarde les météorites, il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. Mais quand on regarde les comètes, c'est de l'eau et du dioxyde de carbone, la neige carbonique. Et ça, c'est des trucs très anciens qui circulent à la périphérie du système solaire depuis très très longtemps. Et on pense que maintenant, ils sont rares, mais on pense que c'est eux qui ont apporté l'eau dans la Terre une fois que la Terre était déjà formée.
Et on ne sait pas quand.
Alors ça, on ne sait pas quand. Par contre, on a des manières de voir ça. On sait qu'il y avait des océans. Alors je crois que les datations les plus anciennes ont... Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans les roches des cristaux comme le quartz, par exemple, qui croît. Et comme c'est dans des roches sédimentaires, il peut piéger de l'eau quand il se cristallise. Et donc on trouve dans ces quartz et d'autres minéraux aussi, des petites bulles d'eau primordiale. Donc à ce moment-là, on peut voir qu'il y avait de l'eau. On peut même dater ça et on peut aussi voir qu'à quelle température elle était. Encore une fois, c'est des mesures qui sont faites, c'est assez compliqué à détecter. La préservation de ces petites bulles, c'est objet de controverse.
L'eau résulte d'une pluie de météorites, en quelque sorte ?
C'est ce qu'on pense, oui. Parce que c'est la seule manière de la faire venir. Alors pourquoi on pense ça ? D'abord parce que, vis-à-vis de la structure du disque protoplanétaire, c'est ce qu'il y a de plus probable. Mais en plus, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau à l'intérieur. Et que l'eau qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas d'où elle vient. Mais il y en a un petit peu, mais comment ça se fait ? Donc il y a beaucoup plus d'eau à la surface. Alors le problème, c'est que finalement, je sais que quand je fais des éruptions volcaniques, je dégaze l'eau. Donc une bonne partie de l'eau que je vois, elle vient de profondeur. Mais de quelle profondeur ? Donc à partir de quand j'ai eu de l'eau dans les profondeurs ? Alors on pense qu'il y a à peu près au moins autant d'eau à l'intérieur de la Terre qu'à la surface.
Et sous quelle forme alors ?
En fait, dissous dans les minéraux. Le H2O se retrouve lié dans les cristaux. L'eau, c'est intéressant, c'est la matière la plus fascinante de l'univers, à mon avis, l'eau. Et donc l'eau, qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, à part son importance pour le climat, pour la vie, etc., l'eau, elle change complètement les roches. Une roche qui est solide à 900 degrés, je lui mets 1% d'eau, elle devient liquide. Deuxième chose, c'est qu'une roche dans laquelle j'ai un peu d'eau, elle se déforme beaucoup plus rapidement que si elle n'a pas d'eau. C'est pareil, si je rajoute 1% d'eau à une roche, qu'elle se déforme 10 fois plus vite si elle a un peu d'eau que si elle n'a pas beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça que c'est absolument essentiel de savoir si, combien d'eau j'ai. Et donc c'est intéressant parce que l'eau, qui est vraiment un constituant mineur, eh ben, il a un effet majeur. Et ça, ça fait partie de ce qui est fascinant dans l'univers, c'est que des toutes petites entités sont capables de déterminer le comportement de tout.
Claude, un grand merci. Tout ça paraît vraiment fascinant, hein. Pourquoi je suis pas géophysicien ?
Je sais pas.
Peut-être parce qu'on m'a donné des cours de géologie quand j'étais en quatrième qui m'ont un peu dégoûté.
Ah ben moi, je m'étais promis de jamais faire de géologie. Je trouvais ça, c'était insupportable. Bah en fait, même encore maintenant, la géologie est très mal enseignée.
Comment se fait-il que la géologie telle que nous l'avons subie quand on était en quatrième est arrivée dans les programmes de collège ?
D'abord, pourquoi avec ces programmes-là ? Parce qu'en fait, c'était descriptif, c'était parfaitement rasoir.
On faisait une leçon sur le granit, une leçon sur le gypse, une leçon sur je ne sais pas quoi.
C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une discipline qui, à l'époque, n'était pas capable d'expliquer les choses. Donc, c'est que tu faisais des descriptions. Et tu ne savais pas, à l'époque, on commençait vaguement à comprendre. Il faut savoir à l'époque que, par exemple, le basalte, c'est la roche la plus abondante. Tous les fonds marins, c'est fait de basalte. En 1960, on ne savait pas ça. Donc, si tu veux, on s'intéressait aux granites qui sont des sortes d'épiphénomènes. C'est important parce que c'est dans la croûte continentale, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important.
Je crois comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Hein.
Il y a encore pas mal de choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a des outils pour étudier tout ça.
Vous avez écouté Atmosphère de Giorgi Ligeti, sous la direction de Alan Gilbert.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.